par le regard, tu m'as pris. Et...
Bonjour tout le monde. Spectaculaire commence aujourd'hui, mercredi 21 janvier 2015. Il est 14h02 à la pendule de Radio Canu. Gérald est avec moi ainsi que Gilles Ostrowski pour parler des Fureurs d'Ostrowski qui sont données ces jours-ci au théâtre de la Croix-Rousse. Je donnerai toutes les précisions sur les dates ainsi que les horaires et tout cela. Gilles est donc avec nous pour parler pendant toute cette heure de ce spectacle. Nous, peut-être évoquerons-nous aussi le prochain spectacle de Jean-Michel Rabeu à venir à partir de la semaine prochaine, le Peau d'âne, toujours au théâtre de la Croix-Rousse. Et voilà, j'ai déjà indiqué l'heure, donc tout est indiqué. Nous sommes sur Radio Canu et nous sommes bien sur Radio Canu. L'émission spectaculaire se termine à 15h. Vous nous écoutez sur le 102.2 de la bande FM ou bien sur internet radiocanu.org. Nous commençons, puisque ce spectacle porte sur la malédiction, toute la famille des Atrides, et bien nous commençons avec de la musique grecque que Gérald a trouvé. Musique de la Grèce antique, Ancient Greek Music, est-il écrit sur cet album musical d'abord de la collection d'Harmonia Mundi. Nous commençons avec un premier titre et puis voilà, écoutons et tout ira bien. Bonne émission et ça va commencer. Qu'est-ce qu'il racontait, Gérald, tous ces...
Je ne suis pas hellénisant.
Non.
Par contre, je peux vous dresser la liste de quelques instruments qu'on a écoutés. C'était l'ensemble Atrium Musicae de Madrid. dirigé par Gregorio Paniaga, qui est assez connu dans la musique ancienne, médiévale, séfarade, etc., arabe andalouse, etc. Alors, les instruments qu'on écoutait, par exemple, c'était l'ascolès, holos, holos calaminos, holos hyperteleoi, holos paedikoi, holos parthenios, sirène de Helmholtz, quindapso, syrinx, titiros, tricordon, trigonion, tritonakera, tympanon, xylophonon, crécelle, crépitacolum, cymbalum, cymbalium, diolos.
Si Hergé vivait encore, il pourrait puiser un répertoire de noms d'oiseaux pour son capitaine ad hoc. Bon, bref.
Belle reconstitution, en tout cas, de vrais fragments, les rares, les seuls, qui nous sont parvenus de la Grèce antique. Et pour commencer cette émission, c'était quand même la moindre des choses.
Puisque Gilles Ostrowski est là pour parler des Führer d'Ostrowski, un spectacle au sujet des attrides de matière grecque. Je vous en prie, voilà, on a assez parlé, Gérald, toi et moi. Laissons la parole donc à Gilles Ostrowski pour, comme d'habitude, l'invité, c'est la règle dans l'émission spectaculaire. On en est à la quoi, 53e, 4e, 5e, 203e, non, j'en rajoute 50 et des brouettes. La règle, c'est que l'invité, en début d'émission, se présente, indique différentes choses de son parcours, de ses goûts, je ne sais. Je vous en prie.
Ah bon, bah c'est parti alors.
Gilles Ostrowski, à vous la parole.
Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait d'où je viens Je vais commencer par le théâtre, hein, parce que je ne vais pas m'étendre sur ce qui s'est passé avant ma découverte du théâtre.
Oui, mais alors, comment est-elle venue cette découverte peut-être?
Eh bien, d'abord, j'ai fait des études de comptabilité, d'abord, ce qui paraît assez logique. Donc après, une bonne licence pour devenir expert comptable, en prenant des cours du soir de théâtre, comme ça, hein, histoire de... Tout ça n'était pas très sérieux, évidemment, c'est pas très sérieux de faire du théâtre. Finalement, il y a eu un moment, je me suis dit que c'était pas très sérieux de faire de la comptabilité. Donc, voilà, quoi, de fil en aiguille, je me suis dit que j'allais plutôt faire du théâtre. Alors, j'ai fait une école, pour l'anecdote, c'était donc à Paris, c'était une école qui était tenue à l'époque par Nils Aristrup. Et voilà, moi ça n'existe plus maintenant, hein, mais c'était pas mal parce qu'il y avait plein de disciplines différentes, autant de l'acrobatie, du chant, voilà. Et d'ailleurs, il y a un truc qui a été assez déclencheur pour moi, parce que moi quand j'ai commencé le théâtre, j'avais pas envie de passer des années dans une école, vu que je me suis décidé assez tard, je voulais aller très vite sur le plateau, et il y a eu un prof qui nous a donné des cours de clown, qui venait de chez Jacques Lecoq en fait, donc c'est toute une formation avec, au départ on travaille sur les animaux, sur les éléments, le vent, on apprend à faire le feu, puis à faire le vent, puis à faire l'eau, puis au bout d'un moment on apprend à faire le clown. Et dans le clown, moi il y a un truc qui m'a, sur lequel j'ai vraiment accroché. Bon, déjà il y a l'idée que, il y a vraiment l'idée de l'acteur créateur, quoi, c'est-à-dire que c'est les numéros qu'on invente à partir d'impro. Il y a un rapport très très direct avec le public. Il y a vraiment l'idée que l'acteur, il est pas seulement là pour interpréter un texte, mais vraiment il arrive avec un univers. Et ça, c'est un truc qui m'a électrifié. Et d'ailleurs, à la fin de cette période, je sais pas, ça a dû durer peut-être 3 mois, quoi, de stage autour de ça, il nous a dit bon bah maintenant, là c'est bien gentil, mais enfin si vous voulez vraiment savoir ce que c'est que le clown, faut aller en public, quoi. Donc on s'est retrouvé avec 4-5 potes un peu motivés à faire les scènes ouvertes. Et au départ, on partait vraiment la fleur au fusil, c'est-à-dire on faisait des impros, on se donnait un thème 5 minutes avant de, et on improvisait en public. Et on s'est pris des belles gamelles, hein, mais aussi des moments de magie. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y avait les premières impros que j'ai fait en public, c'était avec Pierre Guillois, qui a joué, qui a créé un spectacle à la Croix-Rousse qui s'appelait Bigre. Enfin, voilà pour l'anecdote. Mais voilà, de ça, après est venue l'idée de monter des spectacles. C'est venu naturellement, parce que voilà. Après j'ai fondé une compagnie avec 2 autres personnes, Sophie Cusset et Jean-Mathieu Four. Et la compagnie s'appelle, parce qu'elle existe toujours, la compagnie Octavio. Et au départ, on a créé des spectacles de clowns. Et en fait, ça a bien marché.
C'est-à-dire, spectacle de clown, est-ce qu'il y a un texte ou
alors,
c'est une trame ou
alors,
comment,
bah,
comment
ça, on a évolué. C'est-à-dire que moi, les tout premiers spectacles ont été une sorte de truc un peu... je vais pas dire traditionnel, mais disons qu'on prenait un thème, mais qui pouvait être, par exemple, le premier spectacle qu'on a fait s'appelait Vert Pomme, et au départ, on s'était donné comme thème le repas de famille. Bon, voilà. Et après, on improvisait autour de ce thème, donc l'idée du repas, etc. Bon, et ça partait en cacahuète, évidemment. mais il n'y avait pas vraiment de texte. Le premier spectacle qu'on a fait, il n'y avait quasiment pas de texte. Et après, au fur et à mesure, d'abord parce qu'on n'avait pas envie de s'enfermer dans le clown, enfin, après, même si il y a des très grands clowns et que ça, nous, on n'avait pas envie de faire que ça. Donc après, on a été exploré. D'abord, on a monté des textes aussi, même des textes pas du tout clownesques, genre Les Bonnes, Jeunet, j'ai un trou de mémoire, mais un texte de Schwartz, de Vinnie Schwartz, bon, bref.
Il y a une grande
réplique. Un miracle ordinaire, voilà.
Il y a une grande réplique dans Les Bonnes, je crois, c'est Il faut rire. Il faut se dépêcher de rire avant que le tragique nous fasse passer par la fenêtre.
Hein. Ouais, c'est très clownesque. Parce que moi, vraiment, de toute façon, après, ce qui m'a vraiment aiguillé, c'est comment surfer, aller sur le fil entre le tragique et le comique. Par exemple, moi, il y a un autre spectacle que j'ai monté, ça s'appelait Le Retable, le Christ et le Clown, parce qu'à un moment, notre compagnie était en résidence à Colmar, au CDN de Colmar, et donc il y a un retable de Grunewald, moi, qui m'avait complètement halluciné, quoi, avec un Christ crucifié, complètement, il est vert de tellement on sent une telle
gore,
violence.
N'ayons pas peur des mots, il est gore, c'est le gore de l'époque.
C'est vraiment très violent. Mais c'était une réflexion que je m'étais faite depuis un moment. J'ai fait un rapprochement entre le Christ et le clown. Voilà, avec l'idée de la figure du bouc émissaire, celui qui doit payer pour les autres. Il y avait une sorte de crucifixion à la tarte à la crème. Enfin bon, où à la fois c'était drôle et puis à un moment c'était plus très drôle parce que finalement la personne se prenait vraiment des tartes à la crème. C'est toujours la même et à un moment on trouvait ça pas drôle du tout. Et j'adore ces moments où ça peut basculer d'un truc à l'autre. Et j'adore pouvoir traiter de thèmes très sérieux. Mais effectivement, avec cette réflexion de Jeunet, quoi, il vaut mieux en rire, quoi. Rire, parce que sinon on va crever, quoi. Bon, c'est bien un grand mot, quoi.
Et où commence ou s'arrête le clown, vaste question.
Ouais, voilà. Moi, c'est une frontière que j'adore explorer. Voilà. Après, on a fait un spectacle aussi autour du monde du travail, où, par exemple, on mettait en scène, parce que ça aussi, le clown, on se met vachement en jeu. Donc, par exemple, sur le spectacle qui s'appelait Men at Work, on se mettait en scène nous-mêmes, compagnie, en train de jouer ce spectacle autour du travail. Et puis, au bout d'un moment, il y avait un des acteurs qui se faisait virer, parce qu'il n'était pas assez drôle. Il était remplacé par un autre acteur. Voilà, c'est ce genre de... Voilà, comment on peut circuler là-dessus, quoi. Bon, vas-y.
Petite parenthèse pour nos éditeurs. Ouais. J'avais un trou de mémoire, je l'ai retrouvé. Il y a un ouvrage d'esthétique très très bien qui s'appelle « Figure de l'artiste en clown », autoportrait ou « Figure de l'artiste en clown » de Jean Starobinski, qui fait toute l'esthétique du clown à travers toutes les peintures qu'on peut voir chez Lautrec au 19e, et justement toutes les figures très ambiguës du clown, en fait, les métaphysiques, etc., quoi.
Ouais,
le Gilles de Watteau et tout ça dans la peinture. Ouais. Le clown a toujours été une figure, et puis jusqu'aux Arrangements mécaniques de Kubrick, qui est un clown terrible.
Très pas drôle.
Très violent.
Très pané à la fin, d'ailleurs.
Ouais, très pané. Ouais.
Et alors, comment s'est fait plus ou moins le basculement vers... Là, je suis sur le site du Théâtre du Point du Jour, et il est quand même bien indiqué qu'en tant que comédien, Gilles Ostrovski joue également sous la direction de Marion Guerrero dans Saga des habitants du Bal de Moldavie. Et puis ensuite, il y a toute... beaucoup de pièces qui sont égrenées, William Shakespeare, j'aperçois, Les Bonnes de Jean Genet, vous l'avez dit à l'instant, un opéra de Puccini, enfin différentes choses. Ou à partir de quand, donc, avez-vous peut-être pas tant délaissé, mais avez-vous un peu laissé les clowns, ou alors au contraire, vous n'avez jamais laissé l'univers du clown? Enfin, vous êtes tout de même passé davantage au théâtre classique, ou je sais pas comment le nommer.
Ouais, alors après, c'est les hasards des rencontres, hein. Mais effectivement, moi, ce que je dis, j'avais pas envie de faire une carrière de clown du tout, et ni la compagnie, moi. C'était une carrière de comédien, et après ça s'est fait au fil des rencontres, et moi il y a des textes que j'avais envie de rencontrer, donc ça a été et des rencontres avec des textes, effectivement Shakespeare, c'est marrant parce que Shakespeare j'en ai joué pas mal, d'ailleurs je vais encore en jouer pas mal. Et c'est marrant qu'on me propose souvent de jouer du Shakespeare, parce que s'il y en a bien qui est capable de surfer sans arrêt du tragique au comique, c'est bien Shakespeare, quoi. Et moi, c'est des textes que j'avais vraiment envie de travailler, quoi. Donc, ouais. J'ai envie de dire, c'est le hasard des parcours, hein. J'ai rencontré Jean-Michel Rabeux sur un stage, qui m'a fait jouer, justement, dans un Phédo, après dans un Shakespeare. Après, effectivement, moi, j'aime beaucoup Marion Guerrero. Elle bosse avec une fille qui s'appelle Marion Aubert, qui donc écrit. Moi, c'est... Voilà, l'idée de rencontrer des auteurs vivants aussi, pour moi, c'est très important. Toujours pareil, parce que, voilà, moi, j'ai commencé comme ça, commencé en créant mes propres spectacles. Moi, l'idée de rencontrer des auteurs vivants, c'est super important. Et dans tous les spectacles que je fais, encore, voilà, même les spectacles où, a priori, on se dirait, mais ça n'a absolument rien à voir avec le clown. Pour moi, je pense que dans mon jeu, dans ma manière d'aborder les rôles, mais les gens ne le voient pas forcément, mais il y a quelque chose du clown, un rapport au présent, un rapport au public, quelque chose qui est toujours en direct. Et ça, que ce soit pour jouer Genet ou Shakespeare, disons que après, moi, en tout cas, chaque fois que j'arrive dans un projet, pour moi, j'arrive avec quelque chose. C'est-à-dire, je me dis, j'arrive avec mon univers quand même.
Je confirme, vous deviez être content hier, on avait des lycéennes très excitées, très ouais, rieuses hier, donc ça a un peu stimulé.
Ouais, c'était rock'n'roll.
Gérald.
Non, mais c'est très bien. Ils réagissent. Ce qui est super, c'est qu'ils réagissent, sont vraiment dans le spectacle.
Très émotionnellement direct.
Ils sont en direct. Bon, moi, je trouve ça super, quoi. C'est-à-dire que. On sent que ça leur rentre dans le cerveau de manière directe, quoi.
Mais c'était bien qu'elle soit là, j'ai trouvé.
C'est électrique,
parce que ça aurait
ouais.
été un peu triste, parce que le reste du public était un peu amorphe, finalement. À part des rires qui fusaient quand
ouais,
même.
Ouais, alors après,
mais pas
moi,
tout
un
suite,
moment.
Au début, les gens étaient un peu interloqués, quoi.
Bah.
On savait pas sur quel pied danser, hein. Même
en même temps, c'est le jeu du spectacle, ouais. quoi.
Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc, ce café théâtre bizarre.
Donc la transition a lieu, c'est ça? Nous sommes en train de parler davantage du spectacle.
Je crois qu'elle a lieu, ouais.
Alors, ce que nous allons faire, c'est tout de même marquer la chose de manière solennelle. On va écouter. Gérald a programmé quelque chose, 40 ans de Poésie Gallimard, c'est ça?
C'est ce qu'on. Ouais, c'est surtout pour écouter une fois de plus Élise Caron, donc on va finir par parler de ses émissions. J'espère qu'elle nous entend, elle va venir un jour. Elle lit un texte de Michaud qui parle de manière délirante des guerres et des conflits, et comme on va enchaîner sur le spectacle, c'était une bonne transition.
Donc nous parlons du spectacle Les Fureurs d'Ostrovski. Gérald vient de dire qu'il a vu, il a pu avoir l'insigne honneur d'assister à la première hier, le mardi 20 janvier, c'était à 20h. Il reste encore donc 4 dates, mercredi 21 ce soir à 20h aussi, jeudi 22 demain à 20h toujours, vendredi 23 toujours à 20h, mais... Attention, samedi 24, ce sera à 19h30. Il est possible de réserver en se rendant sur le site du Théâtre de la Croix-Rousse, croix-rousse.com. Je donnerai encore des précisions. Il y a un numéro de téléphone aussi que je peux indiquer, enfin différentes choses. Il n'y aura pas de pièce dimanche 25, ce sera relâche. Mais en revanche, la semaine prochaine, Jean-Michel Rabeux sera encore présent, plus ou moins, à travers le spectacle Podane, qui commencera même peut-être la semaine d'après, je ne sais plus. Je vérifie toutes les dates. Nous en reparlons donc dans cette deuxième partie d'émission. Une fois que nous aurons entendu Élise Caron évoquer les guerres, matière de ce spectacle, Les Fureurs d'Ostrovski, dont Gilles nous parle depuis le début de l'émission, 14h19. Voilà, écoutons et nous continuons.
Le secret de la situation politique. Les Ouménés de Bonada ont pour désagréables voisins les Nippos de Pomédée. Les Nibodis de Ponaris se s'entendent soit avec les Nippos de Ponédée, soit avec les Jabons de Carabule pour amorcer une menace contre les Ouménés de Bonada, après naturellement s'être alliés avec les Bitules de Rotrarc ou après avoir momentanément, par engagement secret, neutralisé les Rigobettes de Biliguette qui sont situées sur le flanc des cols vides de Belay qui couvrent le pays des Ouménés de Bonada et la partie nord-ouest du turritaire des Nippos de Pomédée, au-delà des brochus de Tosteboul. La situation, naturellement, ne se présente pas toujours d'une façon aussi simple. Les Ouménés de Bonada sont traversés eux-mêmes par 4 courants. Ceux des Doroménés de Bonada, des Odobomédés de Bonada, des Orodomédés de Bonada et enfin des Dorobodémonédés de Bonada. Ces courants d'opinion ne sont pas en fait des bases
et se contrecarre et se subdivise, comme on pense bien, suivant les circonstances. Si bien que l'opinion des Dévonés des Bonadas n'est qu'une opinion moyenne. Ah, ah, ah. Et l'on ne trouverait sûrement pas 10 Dévonés des Bonadas qui la partagent. Ah, ah, ah. Et peut-être pas 3. Quoiqu'ils acceptent de s'y tenir quelques instants pour la facilité. Non certes du gouvernement, mais du recensement des opinions qui se fait 3 fois par jour. Quoique, selon certains, ce soit trop peu, même pour une simple indication, tandis que, selon d'autres, peut-être utopistes, le recensement de l'opinion du matin et de celle du soir serait pratiquement suffisant. Il y a aussi des opinions franchement d'opposition en dehors des odobomédés. Ce sont celles des rodobodémomédés, avec lesquelles aucun accord n'a pu jamais se faire, sauf naturellement sur le droit à la discussion, dont ils usent plus abondamment que n'importe quelle autre fraction des Ouménés de Bonada, dont ils usent intarissablement. Oui, oui, oui.
Alors, je ne sais pas comment tu viens, Gérald, de présenter ce morceau. Tu as dit une sorte de délire d'Élise Caron, c'est ça?
Ou ouais,
c'est
un jeu de langage d'Henri Michaud, un texte d'Henri Michaud, mis en dit et un peu chanté par Élise Caron. Dans le cadre d'un CD, tous poètes, offert dans les librairies il y a des années.
Et donc tu trouves que cela introduit très bien, présente parfaitement le spectacle. Enfin, parfaitement.
Pas parfaitement, mais il y avait un lien entre le conflit permanent.
Les fureurs d'Ostrovski données ces jours-ci au Théâtre de la Croix-Rouge. Gilles Ostrovski est avec nous pour en parler. Mais tout d'abord, Gérald, tu souhaites...
Je préfère lire la petite carte, le flyer, les fureurs d'Ostrovski, où il y a une photo en forme de croix grecque, évidemment, pas latine. avec notre ami ici présent, qui semble sortir de Shining, je dirais, ou d'un film de genre mauvais genre, très mauvais genre, ensanguinolant, avec qui montre une hache.
Ensanglanté.
Il est ensanglanté de partout, il y a des draps ensanglantés derrière, ça donne déjà le ton du spectacle, qui est très sanguinolent.
Et donc les Inrocks font
mais au 15e degré. Hein. Et donc, au dos de cette petite carte, est écrit un petit résumé et une très belle critique des Inrocuptiques, je vous la lis. Hein. Donc, théâtre. C'est du théâtre. Hein. L'overdose familiale des fêtes de fin d'année vous a mis dans une humeur massacrante. Venez vous défouler en compagnie des Atrides, cette famille de Grecs anciens qui avait pris la fâcheuse habitude de s'entretuer de génération en génération. Dans un one-man show délirant, le comédien Gilles Ostrovski interprète tous les personnages de cette sanglante lignée et démontre qu'avec une bonne dose de second, voire de troisième degré, on peut rire de tout, même du pire. Vous réaliserez alors certainement que votre famille n'est pas si terrible que ça. Et selon les Inrecuptibles, Gilles Ostrovski s'intéresse à cette fratrie particulièrement gratinée que sont les Atrides. Interprétant lui seul les principaux protagonistes dans un spectacle halluciné qui joue habilement avec les codes du cabaret et du music hall, phénoménal.
Ouais. Bon. Ouais. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant, on va bien entendu laisser la parole à Gilles, c'est qu'il me semble que dans cette première partie d'interview, ce que vous avez pu dire, parler un peu de ce spectacle, le fait tout d'abord cette idée que vous estimez, enfin du moins vous intéresse beaucoup cette idée que l'acteur, quand il vient dans un projet, vient avec un univers, ou disons, l'acteur n'est pas qu'un acteur qui interprète quelque chose, il y a un univers, et moi, il me semble que, concernant ce spectacle, quelqu'un d'autre qui le ferait, ce serait sûrement autre chose. Je peux en parler parce que j'ai vu quelques vidéos, et puis depuis que vous êtes en face de moi, depuis une demi-heure, je me dis oui, effectivement, il y a un truc qui doit se produire dans ce spectacle, et puis par ailleurs, l'autre idée que vous développiez, ce fil du rasoir très, très ténu, très tendu, qui peut départager le tragique et le comique, cela vous est également cher, enfin du moins cela vous intéresse. Donc il me semble que déjà vous avez annoncé un peu, enfin comment dire, vous avez déjà commencé un petit peu à parler de ce spectacle. Donc maintenant ce qu'il faudrait faire c'est tenter d'en parler peut-être plus précisément sans toujours, c'est un problème, sans trop déflorer la chose pour que les auditeurs et les Lyonnais puissent encore se rendre ce soir jusqu'à samedi au Théâtre de la Croix-Rousse à 20h. Attention, 19h30, samedi. Donc je vous en prie, Gilles, comment composer, comment évoquer ce texte, tout d'abord, dont vous êtes auteur, mais Jean-Michel Rabeux vous a un peu...
En fait, l'histoire du spectacle, à la base, c'est une commande, en fait. Hein, c'est un directeur de la communauté Picardie qui après moi avoir vu jouer dans un spectacle où j'avais une... J'étais pas seul, mais j'avais une grosse part en solo, qui me dit, tu veux pas faire un solo, si tu veux, je te le produis. Alors voilà, bon... C'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un moment. J'avais déjà une fois et plus ou moins écrit un texte pour un solo, et voilà. Et là, il se trouve que j'avais pas mal bossé avec Rabeux, mais donc je, on en a un peu discuté ensemble. Et puis moi, je trouvais que pour faire quelque chose de drôle, je voulais partir de quelque chose de terrible. Et je me suis dit, plus ça va être terrible, plus ça va être drôle. Et donc, de fil en aiguille, je suis tombé sur Les Atrides, qui est vraiment terrible, hein, parce que juste pour, je vais quand même juste dire un peu le début, quoi. C'est, ça commence un peu comme ça. C'est un frère qui invite son frère à manger chez lui. Ça, c'est plutôt sympathique. Mais il lui donne à manger, il donne à manger à son frère les enfants de son frère. Et ça, c'est évidemment, ça, c'est pas terrible. Du coup, ça crée une sorte de petit malaise, quoi, qui va traîner du coup de génération en génération. Hein. Ils vont pas trop savoir comment s'en sortir avec cette histoire. Et en fait, Les Atrides, c'est une histoire d'une malédiction terrible comme ça qui va traîner, qui va nous emmener même à la guerre de Troie. Enfin bon, ça, comme ça, on reconnaît plein de choses. C'est marrant parce que finalement, il y a plein de choses qu'on connaît plus ou moins, mais voilà. Bon, et ça, tout ça va se terminer avec beaucoup de sang. Hein. Bon, il y a un moment, ça va quand même un petit peu se terminer. Enfin voilà. Et donc. Pour dire que moi, voilà, j'ai commencé à écrire quelque chose, comment re-raconter cette histoire, mais à ma manière, c'est-à-dire il y a quelque chose d'un peu décalé, quoi. C'est-à-dire que finalement, je raconte des choses, je suis pas si loin de, j'invente assez peu, en fait. Je suis quand même vraiment sur le fil de la véritable histoire, mais il suffit de pas grand-chose pour que ça devienne drôle, en fait, parce que quand même, ce qui se raconte, c'est juste dingo, quoi. Malheureusement, il y a des choses comme ça qui existent dans la vie aussi, mais voilà quoi. C'est on est sur le fil, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand j'explique quelle est la solution que trouve pour régler le problème l'oracle, et qui dit que c'est simple, il suffit juste de coucher avec que le type il doit coucher avec sa fille. Moi, ça c'est la vraie histoire.
Les oracles n'ont pas le beau rôle entre guillemets.
Non, disons qu'il s'en sort, voilà quoi, comme il peut quoi.
Ils leur font dire bien ce qu'ils veulent. Hein.
Voilà, mais bon, voilà. Donc en fait, c'est spectacle, c'est ça quoi. C'est raconter l'histoire des Atrides, mais sur un drôle de fil quoi.
Ça nous referait prendre conscience de la cruauté de toutes ces mythologies, et puis dans la Bible, et puis partout, et puis tous ces grands textes fondateurs sont toujours hyper cruels. C'est que des histoires d'inceste, de
voilà,
viol,
c'est ça,
de
cruauté,
tuerie,
c'est ça. Cruauté,
c'est
attention,
de l'humanité, quoi.
Cruauté dans le meurtre, mais cruauté également, la violence est aussi dans le viol, hein, cruauté sexuelle, puisqu'il y a toujours des choses assez effrayantes qui sont
et
faites.
Et cannibalisme.
On pourrait évoquer une autre tragédie, enfin du moins un autre Œdipe avec Antigone, la situation pas possible non plus. Mais là, restons sur les Atrides. C'est intéressant, le théâtre dit que c'est adapté très très lointainement de cette histoire. En fait, c'est ce que vous avez dit à l'instant, c'est pas si lointain non plus. Vous restez quand même assez bien dans les choses. Moi, je pensais à c'est seulement une réplique pour le tout début. Vous disiez donc avec votre ton, enfin, vous avez souhaité apporter quelque chose. Je ne souhaite nullement faire ça. Je ne vais pas lire, mais je veux seulement revenir sur cette idée que vous évoquiez au début. Enfin, cette idée, ces mots que vous avez. Vous parlez de coutumes. Concernant donc les enfants, vous supposez, enfin du moins votre personnage qui est sur scène, puisque oui, vous êtes plus ou moins à la fois attrait, puis vous êtes également une sorte de narrateur, et donc là vous commentez, vous indiquez comme si c'était une sorte de coutume, le fait quand on est contrarié, eh bien de proposer à manger les enfants de la personne contre laquelle on aurait un grief. Enfin, et d'ailleurs, ce ton, et même peut-être pourrions-nous évoquer aussi Jean-Michel Rabeux, enfin, ce ton vient surtout de vous, essentiellement de vous, ou est-ce que Jean-Michel Rabeux a apporté quelques éléments, toujours
dans
ce texte ?
Moi, on a beaucoup travaillé avec Jean-Michel, ce qui fait qu'on se connaît très bien, c'est pour ça que ça a pu se faire. Disons que moi, je suis arrivé un peu avec cet univers, un peu avec ce ton. Lui, il a beaucoup travaillé. Avec lui, on a repris le texte. plus envie de dire, il avait envie d'amener de la poésie, plus de poésie dedans, plus un travail sur le langage. Donc il y a des histoires de jeux de mots ou de formulations qui vont être, je sais pas, le pire du père, du pire, des choses comme ça, ou comme ça, il y a des sortes de mots que ça devient comme une sorte de langage poétique, quoi. Ça, c'est plus, j'ai envie de dire, Jean-Michel qui l'a amené. Et moi, j'ai plus amené la matière, voilà, cette manière de décaler comme ça l'histoire, quoi. Voilà.
Une matière qui était plus importante encore au départ. Vous aviez un texte qui était...
Oui, bah évidemment, je suis arrivé avec avec des pages et des pages, puis il a fallu choisir, quoi, à l'intérieur de tout ça, quoi, parce que il y en a des pelletées, hein, d'histoires de... Et puis elles sont toutes plus horribles que les autres, donc plus toutes plus drôles que les unes que les autres. Hein. Il ne suffit de pas grand-chose.
Et alors, donc, pour rester, pour évoquer encore Jean-Michel Rabeu, il est pour ce spectacle le metteur en scène. C'est-à-dire là, à nouveau, un travail qui est un travail de collaboration, ou c'est plutôt vraiment lui qui dirige et vous qui non pas tant obéissez, mais adhérez au projet. Enfin, comment cela-t-il fonctionné ? C'est un spectacle qui tourne, hein, je crois. Il a été créé en 2013. Nous sommes, bon, tout début 2015, donc il a un an et demi, presque deux ans.
Ouais, ça tourne. Ça a tourné l'année dernière, ça tourne cette année. J'espère bien tourner aussi l'année prochaine. Donc ça joue un peu partout en France. Enfin, c'est les joies des tournées des comédiens. Et ben ça c'est vraiment non mais il y a eu un moment où moi je suis arrivé avec le texte, on a pris plein de décisions sur le texte, puis à un moment moi j'ai lâché l'affaire, quoi. C'est vraiment lui qui a pris la mise en scène en main, quoi, même si après évidemment je suis seul sur le plateau, donc oui. Les discussions elles viennent très facilement, quoi. C'est pas, ça reste très ouvert, mais quand même il y a eu un moment sur l'univers esthétique, mais il y a plein de trucs aussi. Lui, il a vu plusieurs des spectacles. Je sais pas, il y a une baignoire dans le spectacle. En fait, ça vient d'un cabaret que moi j'ai monté, qu'il a vu. Et puis quand il a vu le cabaret, il m'a dit dis-moi, on pourrait pas réutiliser ton coup de la baignoire. Enfin, voilà. Là, il se trouve qu'il y a un truc, il y a un jeu avec ça, quoi. Mais là, c'est fait de manière différente. Mais voilà, il y a plein de choses qui sont croisées, quoi. Ça, c'est aussi l'avantage du fait qu'on se connaissait très bien. Que lui, il avait vu des spectacles que moi j'ai monté, que voilà, et qu'on a travaillé voilà, sur trois ou quatre spectacles déjà avec lui, quoi. Donc ça circulait très très bien, quoi. Mais moi, il y a un moment, effectivement, j'ai laissé complètement faire, et sur la direction d'acteur aussi, il m'a vachement aidé, quoi. Parce que moi, voilà, je pars avec mon instinct, la fleur au fusil, puis on me dit ouais, non mais là, t'es gentil, mais on comprend rien. Voilà, quoi. Bon, c'est des choses comme ça, quoi.
Et Gérald, on peut plonger dans de lecture. Moi, j'ai deux.
Non, moi, c'était pour rigoler. Parce que le début du spectacle.
Ah, bah, rigolons.
Est très fort. C'était la cuisine de bébé. Enfin, la semaine dernière, on a reçu une
chanteuse.
Interprète. Qui avait dans son répertoire une chanson de Topor.
Ouais.
D'ailleurs, elle va jouer à tout bout de champ demain soir, je crois.
Panorama.
Hélène Grange.
M'a indiqué avoir fait une piqûre de rappel dans la rémission.
Voilà, demain soir, à tout bout de champ. Et comme elle a une chanson de Topor et que hier, on s'est bien amusé avec les bouts de baigneur découpés ensanglantés, je proposais de lire une minute, une recette qu'on trouve dans un excellent ouvrage de Roland Topor qui s'appelle La cuisine cannibale. On retrouve le même esprit au 15e degré provocateur, si vous voulez bien.
Oui, et puis en plus, ensuite on pourra relancer. Moi, je voulais davantage ce qui se passe sur scène. Et alors là, peut-être Gérald, pourras-tu intervenir.
Voilà,
l'incarnation des personnages et tous les objets. Je crois qu'il y a beaucoup d'objets. Hein. J'ai entendu parler de têtes de poupées. Si, des haches, des épées.
La troupe qu'on avait reçue pour Courteville.
D'accord. Oui, le plateau est assez nu, mais il y a quand même quelques objets.
Des têtes aussi, ça change tout. Bon. Alors, un bébé à la Brissac. Coupez le bébé en tranches aux morceaux pas trop épais. Faites prendre un peu de couleur dans du beurre chaud. Puis ajoutez-y des échalotes et du persil haché fin. Laissez-le tout 5 minutes, saupoudrez d'une cuillère de farine, et lorsque la farine est mêlée à la viande, mouillez d'une larme et d'un verre de lait. Salez, poivrez et laissez cuire pendant une heure. 10 minutes avant de servir, ajoutez une cuillerée de sirop contre la toux. Cette manière d'accommoder les bébés est excellente, car loin de durcir l'âme, elle l'attendrit.
Magnifique.
Donc voilà.
Non mais c'est marrant parce que moi, ce qui me séduit, enfin là, par exemple dans les fureurs, c'est l'idée, et ça c'est, il y a quelque chose du clown, quoi. C'est l'idée que tout est important. Tout est sincère, c'est-à-dire que bon voilà quoi, effectivement au tout début le type il a tué des enfants, puis il faut qu'il les cuisine pour son frère, et c'est un vrai problème, quoi. C'est pas un petit problème, c'est parce qu'on va donner de l'importance, dire comment les cuisiner, quoi. Et il sait pas, et du coup ça l'angoisse, quoi. Et c'est ça qui est Et moi, je trouve, c'est ce fil-là que je trouve beau, quoi, parce que c'est terrible, quoi. C'est une vraie angoisse, quoi. Mmh. Et comment il va s'en sortir, quoi. C'est pas évident, quoi.
Et cela est d'autant plus important que le spectacle commence là-dessus.
Ouais, ouais.
Ce sont les.
Et moi, je joue vachement là-dessus. C'est-à-dire que je peux pas dire. Parce que des fois, on me dit, mais alors, donc vous jouez les Atrides, alors vous incarnez tous les personnages. Ben oui et non. Parce qu'en fait. Moi, c'est à la fois un narrateur qui raconte toute cette histoire, il va parler d'Atrée, et tout d'un coup, ça va tellement le happer, quoi, qu'il est dans une sorte d'angoisse de ce qu'il se raconte, il trouve ça horrible, quoi. Horrible, ce qu'il est en train de raconter, quoi. Et en même temps, ça le fascine. Donc, il continue, quoi. Il dit, mais ça va quand même pas aller aussi loin. Et si, ça va aussi loin. Et donc, du coup, des fois apparaissent quand même des personnages, mais comme ça, tout d'un coup, Atrée se met à parler, mais c'est très bref, quoi. C'est toujours, on est entre le fil, entre le narrateur et l'incarnation, quoi.
Je pense au passage de sexer, quand il sexe sa fille. Ouais. C'est Thieste, hein, c'est ça? Puisque ouais. Voilà, c'est l'autre.
Ben ça, par exemple, ça, c'est Rabeu, ça.
Un passage de Rabeu. Écoutons, faisons peut-être une pause, faisons un voyage autour de la Méditerranée.
Une accalmie
avant de reprendre davantage dans Sissi. Moi, je veux qu'on évoque l'épée, la hache, les têtes de poupées. Oui, oui. Il faut quand même parler.
Il faut que ça saigne.
Voilà. En tout cas, on ne s'ennuie pas. C'est un spectacle de 55 minutes. On ne s'ennuie pas une minute. C'est plutôt bon signe, ça.
Donc, c'est quoi ce voyage autour de la Méditerranée? Ben écoutez, écoutons justement, auditeurs, et puis ensuite, nous retrouverons toujours Gilles Ostrowski pour la suite de cette interview. Le spectacle Les Fureurs d'Ostrowski continue ce mercredi 21 janvier jusqu'au samedi 24 janvier. C'est à 20h ou 19h30 au théâtre de la Croix-Rousse.
Πες το ναι και δε τα χάσεις. Αχ, να θα καλό περάσεις. Φίνα θα καλό περάσεις. Πες το ναι και δε θα χάσεις. Γλυφάδα δυο φορές την εβδομάδα κι άλλες τρεις μικρό κουκλάκι θα μεθά στο καλαμάκι. Πες το ναι και δεν τα χάσεις. Αχ, τι να θα καλό περάσεις. Τι να θα καλό περάσεις. Βρε πες το ναι και δεν θα χάσεις. Χρυσά ντυμένη, όμορφη μου χαϊδεμένη. Τα χιλιάρικα για πάντα θα είναι φως μου μες στη τσάντα. Πες το ναι και δεν θα χάσεις. Φίνα θα καλό περάσεις. Βρε φίνα θα καλό περάσεις. Αχ πες το ναι και δεν θα χάσεις.
C'est Gérald qui nous proposait donc de voyager autour de la Méditerranée. Tu
avec les chants de l'âme grecque.
Ouais, ça donne envie d'aller au restaurant.
C'était grec. De la musique Actes Sud, les années 90 peut-être. Et c'était Angela qui chantait.
Donc c'est toujours pour évoquer ce spectacle.
Pestonai.
Ah, je ne sais pas du tout ce que cela signifie. Et pourtant, il y a du grec dans le spectacle. Agani, Agani, Maïzena, je ne sais plus. Gilles Ostrovski, vous qui êtes seul sur scène pour
enfin,
ce spectacle.
Les Führer
d'Ostrovski. Donc, êtes-vous bien hellénophile, helléniste? C'est une invention, non, pure de la part de Jean-Michel Rabeu. Non, Maïzena, c'est pas la farine.
Non, c'est pas.
Pour l'alimentaire.
On a pris quelques libertés quand même. Hein. Non, là, on l'a complètement inventé. Ouais.
Ah oui, bon, c'est bien ouais. Ça. Il y a une invention. Donc ça, c'est dans le spectacle, les Führer d'Ostrovski. Je crois que c'est à peu près vers le milieu, voire peut-être la fin, non, c'est ça. C'est.
Ouais. C'est le moment. C'est avec Cassandre, hein, donc parce que Cassandre, voilà, c'est un des personnages qui est fascinant, parce que Cassandre, c'est une prophétesse. Elle a cette particularité, c'est que.
Triple, hein, je crois.
Plus hein. Ou moins.
Triple, je pense. Non, un petit 1, un petit 2, petit 3. Je vous en prie, quels sont.
En tout cas, ce qu'elle a une particularité, c'est que c'est une très grande prophétesse. Hein. Tout ce qu'elle dit va se réaliser, mais en fait, on ne la croit jamais.
On ne la comprend pas, je crois, tout d'abord, il y avait. Éventuellement, on ne la comprend pas.
Ouais.
C'est le.
Mais tu vas me dire si je me trompe, mais pour moi, l'histoire, c'est qu'en fait, on ne la croit jamais, quoi.
Oui, c'est ça. Donc le petit 2. On ne la croit jamais, voire on rit, on se marre. Ouais.
Dans le spectacle, évidemment, ils sont morts de rire. Quoi.
Et puis, il y a la troisième truc aussi, particularité, c'est qu'elle crache des belettes qui sont habillées en grec et qui dansent.
Ouais, ça, j'ai pris quelques libertés avec.
Oui, je vous disais, c'est étrange.
Ouais, parce que, en fait, j'ai mis ça, mais après, j'ai retrouvé nulle part cette histoire de belettes.
Non, mais c'est très amusant,
vraiment.
On s'est dit, tiens, on n'a qu'à dire qu'elles sont habillées en grec, comme ça, ce sera plus crédible, quoi. Parce que sinon, éventuellement, on pourrait croire que ça n'existe pas.
Bien
alors que c'est, non, c'est vrai, hein, tout ça. Moi, j'ai.
Elle crache des
belettes. Je suis sûr qu'on va trouver ça sur Google. Hein, on tape belette grecque Cassandre, on va tomber
c'est
dessus.
C'est peut-être un autre répertoire de. C'est peut-être, comment dire, une autre littérature. Moi, ça me fait penser à des contes. Je ne sais plus quel conte. Une femme, quand elle dit des mensonges, il y a des pièces d'or qui tombent.
Elle crache des crapauds, je crois.
Je crois que c'est dans les faits, voilà, il me semble. Donc, pourquoi pas, si on a le droit, non, Dumézil l'avait autorisé. Du moins, l'avait indiqué que les cultures puisent un peu dans des mêmes concepts, des mêmes idées, et ce qui fait qu'on retrouve donc des dieux notamment ou des histoires de mythologie qui sont tout à fait communes.
Ils sont d'animaux maléfiques dans un tableau d'Isenheim dont on parlait tout à l'heure. Il y a un tableau religieux où les larrons ont des grenouilles qui apparaissent vers leur visage à côté des larrons.
Toutes les cultures peuvent se voler ou même se prendre, ou prendre des mêmes thèmes. Restons sur ce spectacle, Gérald. Alors impression de spectateur, c'est au début on se demande quand même,
oui, comment ça va tourner.
C'est effrayant.
Voilà, on se dit qu'est-ce que c'est. Que
pourquoi c'est gore, hein, c'est ça. On ne le voit pas.
Gore.
Je crois que Gilles est caché. Il est derrière une table et il découpe à la hache.
Il y a un gros travail de bruitage avec la bouche. C'est vrai qu'il est très fort. plein de choses. Il l'a dit tout à l'heure. Et il est tout seul, et c'est très sanguinolent, et les membres volent, et voilà, faut pas tout raconter, le décor est bizarre, et voilà. Et puis après, tout s'enchaîne.
C'était vraiment une volonté qu'au début, ça démarre sur quelque chose, justement.
Pris en flagrant délit de boucherie.
Ouais, mais puis on sait pas trop où on va, quoi. C'est-à-dire, au début, l'idée c'était quand même de jeter un petit froid, quoi. Et que de ce froid et de cet effroi naissent le rire, quoi. C'est. Waouh.
Ambiance entre Massacre à la tronçonneuse et les bébés passent à la moulinette de Jean-Christophe Averty, quoi. C'est entre les deux.
Et alors, quand le rire commence-t-il? Avec l'histoire de coutume, justement, quand Gilles dit que c'est une coutume, faut croire chez les Grecs de se préparer de servir à manger les enfants.
Et puis il a surtout déjà une présence d'halluciné parce qu'il a un regard de fou. C'est vrai qu'il faut dire qu'il a les yeux complètement écarquillés. Il fait peur. Et on sait jamais s'il fait peur, s'il faut rire. Et après, il y a une ambiguïté qui s'installe.
Alors, cela doit, je crois,
qui est intéressant,
doit beaucoup plaire à Gilles, puisque c'est ce que vous développiez tout à l'heure, cette idée de, comment est-ce qu'on bascule, ou comment se trouver entre le tragique et le comique, entre.
Moi, j'adore voir comment les gens ils sont. J'adore voir quand. Je t'ai pas vu dans la salle, mais j'aurais adoré te voir paumé, quoi. Non, mais j'aime bien ça. C'est, ça crée une tension, quoi. Et quand et le rire, c'est vraiment, ça devient vraiment un, il y a quelque chose qui se libère, quoi.
Un rire et, de malaise, hein, souvent, ouais. D'ailleurs. C'est bien et que puis, le, parfois les gens.
Mais après, par... ça part vraiment dans le délire, parce que dans le sens, pour moi, par contre, là, une des volontés, c'était vraiment que ça soit très drôle. Voilà, c'est que les gens, il y a des moments, ils puissent vraiment être morts de rire, quoi. Donc, tout en tirant sur ce fil, quoi.
Ça fonctionne, Gérald.
Oui, c'est ce qui s'est passé.
On rit, oui.
Oui, on là, rit, bien sûr. Là, ça mais on ne fait pas que rire.
On réfléchit,
on réfléchit, disons, on pense. On rit jaune.
Tu parlais de catharsis tout à l'heure,
ouais, hein, j'ai ce trouvé, concept ouais, grec. De... Sur les jeunes qui étaient dans la salle, on sentait vraiment un rire cathartique qui faisait du bien, une libération, quoi. De rire, alors, peut-être par malaise parfois, ou par bonne humeur aussi, et puis par... C'était...
Bah c'est marrant, c'est parce que quand je raconte qu'il y a, donc un père qui viole sa fille en pensant bien faire, souvent chez les jeunes, ça c'est vraiment, ils sont, ça rit, puis il y a un moment, ça rit plus du
et
tout.
Ben voilà, exactement. Je regardais les visages, ouais, qui riaient pas du tout.
C'est un moment vachement marrant, quoi. Enfin, vachement intéressant à observer, quoi.
Une bande de filles riaient vraiment, ouais. Gorge déployée, n'en pouvait plus, n'arrivait plus à s'arrêter, ouais. À se tordre de rire vraiment. Hein. Et puis un garçon du même âge à côté, bouge pas, lui, ça ne faisait pas rire du tout. Hein.
Ouais.
C'était étrange, comme la réception de variée.
Alors, je ne sais pas comment vous demander cela, Gilles, mais pourquoi trouvez-vous cela, pourquoi cela vous plaît-il autant? Vous avez dit à l'instant, c'est le terme est peut-être amusant, vous trouvez ça marrant de voir, enfin, mais justement vous êtes un peu repris, mais pourquoi? Enfin, et là justement ce serait peut-être la matière, c'est peut-être une énorme question qui toucherait à des choses intimes, personnelles ou je ne sais, ou c'est en fait le plaisir de l'acteur de créer plusieurs émotions qui sont éventuellement en même temps, qui peuvent coexister dans un même
moment. Oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose du plaisir de l'acteur, c'est de... Quand il y a quelque chose comme ça, qu'on arrive à créer quelque chose qui circule autant entre le plateau et le public, parce que moi c'est vraiment quelque chose, ce que je disais par rapport au début, par rapport au clown, quoi, que c'est super important, comment ça s'échange entre le plateau et le public, quand ça vraiment on sent qu'on fait un voyage ensemble, c'est assez génial, quoi. Et que c'est pas un voyage, on rigole pas, il y a vraiment, on emmène les gens dans des sensations, voilà quoi, dans plein d'endroits quoi. Ça c'est jouissif.
Et ça vous arrivez à le remarquer pendant un spectacle, malgré les projecteurs plus ou moins, je crois.
Ah ouais, on s'en compte.
Sur
ouais,
vous,
si ou... si non oui, ça c'est bien. Ouais c'est au-delà de la vision, il y a quelque chose.
On peut le sentir, oui.
Ouais il y a quelque chose de la sensation, il y a quelque chose d'électrique, ouais on sent. Quand on joue, on sent beaucoup, beaucoup de choses. C'est un moment... moi, je pense que c'est un des trucs qui fait que ce métier peut devenir fascinant, quoi. Et c'est limite une drogue, quoi. C'est-à-dire que... Et non, mais il y a un truc comme ça où, pendant une heure, on est dans un état de sensation très particulier, quoi. C'est-à-dire... où tout devient comme une sorte... Il y a une sorte de lucidité, quoi. On est dans le présent absolu, quoi. Et dans le présent absolu avec les gens, quoi. Donc non, c'est un truc vachement fort, quoi.
Privilège du spectacle vivant.
Tout à fait. C'est là où c'est important, parce que là il se passe vraiment plein de choses, quoi. Ouais.
Et les spectacles, enfin un même spectacle, les publics peuvent-ils être vraiment différents d'un soir à l'autre pendant de
bah, bien sûr, plusieurs ça, dates, ça oui, change, oui, ça change beaucoup. Enfin des fois, oui, ça c'est jamais la même chose. Ouais. Et c'est toujours étonnant, quoi. Toujours étonnant. Puis moi, j'adore, en plus, à chaque fois, il y a des réactions. J'aime bien aussi essayer des fois de réagir en direct avec des réactions. Voilà, où je veux dire, ça va, vous suivez, madame? Voilà, ça, c'est un truc que j'aime bien. J'aime bien, c'est juste pour indiquer qu'on est là ensemble dans la même salle, quoi. C'est pas. Là. C'est. Que voilà, il y a pas de mur, quoi. Je suis là, je dis bonjour madame. Voilà. C'est important, quoi.
Et ça, vous arrivez, oui, vous arrivez à la fois à faire ce jeu d'acteur, mémorisation du texte et puis interprétation, et aussi je suis là avec vous et je vous dis quelque chose, mais je vous dis que je suis en train de vous dire quelque chose. Oui, c'est.
Ouais, ça. Alors ça, c'est. Ouais, ouais.
Cette maîtrise se fait.
Ouais, ça, c'est un truc. Sur ce spectacle, en plus, c'est vachement frappant, quoi. C'est vraiment un truc où je suis et en train de raconter et en train de vivre ce que je disais, quoi. Donc je peux très bien tout d'un coup arrêter et me dire non, mais ça va, vous suivez là? Et puis reprendre dans la seconde qui suit sur un autre fil, quoi.
C'est très bien rythmé d'ailleurs. Il y a un moment, il y a une pause vraiment silencieuse assez... et là ça se pose. vers la fin, je crois, c'est assez dramatique, c'est presque pesant. Mais les gens rient et en même temps tout s'arrête. Et il y a un grand moment de silence avant qu'il y ait la musique. On va peut-être pas trop parler de la musique, on l'écoutera peut-être à la fin.
Non, non, et par exemple, pour moi, ça c'est vachement important que, voilà, il y a un moment, il y a un grand silence. Mmh. Et là, c'est vrai que si ce virage-là il se fait pas, pour moi, c'est qu'il y a un truc qui est raté, quoi. C'est super important qu'à un moment, c'est là où je sais que les gens ils sont vraiment avec moi. C'est-à-dire qu'ils se marrent, ils se marrent, ils se marrent, puis à un moment. C'est pas du tout drôle, quoi.
À ce propos, est-ce qu'il y a des séances privées avec des scolaires assez jeunes?
Alors, il n'y a pas de séance avec que des scolaires, en tout cas.
Il vaut mieux éviter, oui.
Ouais. J'en ai déjà fait, quoi. Mais après, ça dépend.
Ce spectacle-là, avec des collégiens,
ouais,
par exemple.
Ouais,
avec des collégiens. Ça marchait, c'était pas trop hystérique.
Bah, disons que après, c'est à moi, justement. Il y a des trucs que. C'est un peu. C'est comme du rodéo, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des trucs sur lesquels je fais vachement gaffe, quoi.
J'imagine, oui.
Et il y a même des petits trucs que je coupe, en fait. Parce que
censure.
Non, non, mais parce que c'est juste que du coup ils partent sur une autre piste. Quoi. Hein, c'est comme déjà quand on montre une fesse, ça généralement ça décolle.
Non, en même temps, on a tellement édulcoré l'histoire classique.
Ouais, bien sûr.
On croit que c'était déjà.
Mais là, après, c'est là où
bon. Vraiment pas le cas.
Ouais.
Et on peut le revoir à l'occasion de ce spectacle. Romain, c'était pas mal aussi.
Vous parliez de musique, sans parler de la musique du spectacle, peut-être pourrions-nous évoquer, Gérald, tu as été très fort, une musique qui aurait pu être programmée dans le spectacle, Screaming Jay Hawkins.
J'ai pas fait exprès.
Nous écoutons Alligator Wine, et puis alors peut-être pourriez-vous nous dire ensuite, Gilles, pourquoi elle était programmée, et puis c'est finalement, enfin disons, c'était pas tant cette chanson qu'une autre fois, ou je ne sais plus, pourquoi Screaming Jay Hawkins était au début inclus, et puis finalement s'est retrouvé plus ou moins éjecté, et qu'en est-il de ces autres musiques, Rain
qui
joue
le contraste, évidemment, hein, contraste burlesque. Déjà, en lui-même, le contraste devient drôle dans les costumes, dans, dans la musique qui passe à plusieurs reprises.
The left eyeball out of a fist. Take the skin off of a frog. And mix it all up in a dish. Grab a bowl of green swamp funky water. Then count from 1 to 9. Spit over your left shoulder. And you got alligator wine. I said it's gonna make you, yes. I said it's gonna make you mine. It'll make your head ball, baby. It'll make your toes freeze. It'll turn your blood into steam. Gonna make you cough and sneeze. You're gonna scream, woo, like an eagle. You're gonna roar, roar, like a mountain lion. When you get finished drinking good old alligator wine. Alligator wine. Ooh, ooh. You a porcupine. It's gonna make you, I say it's gonna make you mine. Meet me at the stroke of midnight by the swamp down in the woods. I'm gonna make you love me, baby, like you never thought you could. You're gonna drink my magic potion, and your bloodshot eyes will shine. You'll be a slave forever. Oh!
alligators. Fat alligators. Cross-eyed alligators. Funky alligators. Crocodiles too. Hippopotamus kneecaps. Giraffe nose. Baboon lips. Orangutan ears.
Et Screamin' Jay Hawkins ne s'arrête jamais. Il chantait à l'instant Alligator Wine, qui est peut-être la chanson qui aurait été programmée. Alors c'est dommage, là, pendant cette chanson, nous, on s'est totalement perdu. Alors que nous sommes bien en compagnie de Gilles Ostrowski, en train de parler du spectacle Les Fureurs d'Ostrowski, qui est donné ces jours-ci au théâtre de la Croix-Rousse. Ça continue jusqu'au samedi 24, c'est à 20h en soirée, 19h30 samedi. Et d'ailleurs, Gilles Ostrowski, pourquoi ce titre Les Fureurs d'Ostrowski? Pourquoi ce pluriel? Pourquoi votre nom dans ce titre? Il y a une raison, sûrement.
Donc c'est né de... En fait, il y a... On parle beaucoup des Fureurs d'Oreste, hein, quand on regarde un peu partout dans l'histoire des Atrides. Donc Oreste qui va se retrouver à un moment dans cette histoire de malédiction. Il a une sorte d'injonction, il doit tuer sa mère. Pour venger son père, parce que sa mère a tué son père. Enfin bon, lui il se retrouve dans une position. Enfin, c'est pas très cool pour lui, quoi. Il
est c'est d'ailleurs dit dans le texte. Même il y a cette grossièreté. J'en ai plein le cul. Non, tu gelais dans le cul. Il faut que je la tue. Voilà.
Rime pauvre.
Il se retrouve. Non, mais voilà quoi. Il se retrouve. Donc c'est un problème, quoi. Il se retrouve. Il doit tuer sa mère. Donc il y a un moment, il va devenir furieux, quoi. Et les Fureurs d'Oreste, quoi. Et alors, donc on a pensé à ça à un moment, les Fureurs d'Oreste, et puis après, c'est Jean-Michel Rabeu qui a dit, mais non, mais ce qu'il faudrait, c'est quand même indiquer clairement que c'est pas, qu'on joue pas les Fureurs d'Oreste, c'est une réécriture personnelle du truc. Du coup, il s'est dit, Oreste Ostrowski, et ben voilà, les Fureurs d'Ostrowski, voilà, et l'affaire est dans le sac.
Et donc, une belle affaire, Gérald. Oui, on sort... content et on...
On est content d'être venu. On y pense, on y repense. On en rêve, j'espère.
on est troublé. Peut-être qu'on pourrait faire résonner quelques notes de ce morceau qui vient à un moment du spectacle.
Hein. Une mélodie géniale, il a remporté, donc je disais, j'ai trouvé ça sur l'encyclopédie préférée des Français. En 1970, lors de la 42e cérémonie des Oscars, Raindrops Keep Falling on My Head, accent pourri, je le reconnais, remporte l'Oscar de la meilleure chanson originale, donc une chanson composée par Paul David et Burt Bacharach.
Ah ouais, il a fait des tubes, mais sans arrêt. Quoi.
Chantée par B.G. Thomas, qu'on retrouve dans Forrest Gump en 94, Spider-Man 2 en 2004.
Je le mets en tapis sonore,
c'est
là, Gérald.
Le film Butch Cassidy et le Kid.
Eh bien, c'est la version que nous écoutons.
Voilà.
Allez, c'est parti.
Oh non, mais on va seulement quelques notes et puis...
Et reprise par Sacha Distel, évidemment, sous le nom « Toute la pluie tombe sur moi ». L'inénarrable Sacha Distel.
Sacha Distel, ça fait presque une transition. Sacha Distel, Sacha Guitry, avec Gérald. Je me suis laissé dire que tu es allé voir une exposition.
Oui, de Lubac, il était temps. Elle se poursuit encore quand même. Jacqueline de Lubac, le show de la modernité, avec en sous-titre « Rodin, l'âme, Picasso, Bacon ». Exposition du 7 novembre au 16 février. Donc il reste encore presque un mois.
Pour celle de Héros, il reste à peine un mois, je crois.
Donc c'est dans l'aile gauche... Les expos temporaires.
Héros, c'est au musée d'art contemporain.
Alors, je suis mitigé. Peut-être que j'étais pas en forme ce jour-là. J'étais un peu déçu. Mais bon, c'est quand même à voir. Hein. Les gens qui connaissent mal la collection d'art moderne, c'est un bel hommage. Hein. Et elle le méritait, évidemment, parce que c'est une grande donatrice et légatrice. Je sais plus exactement la différence entre légation et donation. On va pas en parler maintenant. Mais elle a apporté beaucoup d'œuvres d'art, dont des chefs-d'œuvre absolus. Elle avait du goût, c'est sûr, et c'était à l'instinct, elle a un œil. Elle achetait des gens à l'époque qui n'intéressaient personne, on s'est même foutu d'elle, parce qu'on disait, mais t'achètes un du Buffet, oh, t'achètes un Hartung, des choses qui se vendaient peut-être assez peu cher. Elle achetait toujours des grands formats, qui sont devenus des chefs-d'œuvre, des Bacon, etc., et qui ornent et qui font, qui sont maintenant devenus les joyaux de la collection d'art moderne du musée de Lyon, des Beaux-Arts. Par contre, la scénographie, j'étais un peu... Il y a beaucoup de photos de plateau, il y a beaucoup d'affiches de cinéma, des extraits de vidéos, une interview avec Henri Chapier. Si vous voulez revoir Henri Chapier, il faut aller au musée des terreaux.
Formidable.
Ah, formidable. Bon, il y a beaucoup de photos, c'était une belle femme. Il y a aussi ses robes. Alors voilà, je vais faire mon débile Radio Canu bénévole de base. Il y a un petit côté bling bling, voilà, qui est un peu, moi, que j'ai trouvé un peu pesant parfois, mais qu'est-ce que vous voulez? Ce sont les mécènes, hein, donc les gens d'argent, qui achètent les œuvres d'art. Puis il y a le verre d'eau du buffet entre deux lions dorés du 18e, ça j'ai trouvé ça. Faute de goût à mon goût, mais bon, c'est mon goût. Hein. Mais il y a des chaises intéressantes, N70, designées en forme d'homme. Elle a pris des moulages directement sur des corps d'hommes, à la Rodin, un petit peu coulé. C'est Frankenstein, je crois, pas Frankenstein. Hein. Frankenstein, un designer des chaises noires. Et au milieu, il y a un beau bacon. Non, il y a des belles choses à voir, petites découvertes, une petite aquarelle, des petits dessins de Tiepolo, une aquarelle de baigneuse avec des réserves de Picasso, qui est pas mal.
Et alors, ce qui
il y a des petites choses, il faut regarder, il faut y aller quand même.
Ouais, mais ce qui est gênant,
moi j'étais un peu déçu.
Moi
mais
ça me semble gênant parce qu'à côté de cela, il y a, dis-tu, des robes fourreaux ou des.
Il y a la robe Delfos de Fortuny. Il y a toute sa collection de robes, hein. Les Pierre Cardin, etc. C'est vrai que c'était une femme très élégante, sans doute très intelligente. Je ne sais pas si elle était très bonne actrice. Elle a été mariée avec Sacha Guitry pendant 4 ans. Elle a fait beaucoup de cinéma. Voilà. Bon, la moyenne d'âge du public, c'est vrai, au musée, était assez élevée, forcément, puisque c'est des actrices
donc c'est
mortelles qui sont connues par une génération. Et je pense que la jeunesse connaît. Rien que pour ça, il faut y aller pour découvrir une grande actrice qu'on ne connaît plus, qu'on avait un peu oubliée. Hein. Je ne sais pas si la jeunesse d'aujourd'hui regarde encore des films en noir et blanc avec un son pourri qui craque, on entend à moitié les dialogues, à moins qu'ils soient restaurés. Donc non, mais c'est à voir quand même.
Si c'est à voir.
C'est à voir.
Bon, bien tout de même, alors.
Surtout pour ceux qui ne supportent pas Héros, ça fait vraiment le contraste absolu.
C'est ce que je m'apprêtais à dire. Oui, mais alors Héros, pour le coup, respecterait peut-être davantage la ligne de l'émission d'aujourd'hui, puisque nous recevions. Il va falloir en parler à l'imparfait. 15h02, nous dépassons l'horaire. Mais Pascal du Blues des Canus m'a dit qu'il ne serait pas là. Alors on se permet de dépasser aujourd'hui. Donc peut-être que l'exposition Héros respecte davantage ce spectacle, Les Fureurs d'Ostrovski, programmé au théâtre de la Croix-Rousse, puisque je lis là qu'il ne reste plus qu'un mois pour aller voir encore cette méga exposition. L'occasion de rendre visite au Silver Surfer, à Wonder Woman, à Mao ou encore à Cranach, Ingres et Picasso. On vous attend nombreux, dit le Musée d'Art Contemporain. Cette exposition se termine donc le 22 février. Et déjà, l'affiche, rien que l'affiche, c'est peut-être, enfin, pas mieux, mais Jacqueline Delubac, qui est une très belle femme, mais l'affiche de cette expo Héros est quand même assez effrayante, peut-être aussi. Enfin, du moins, c'est gorgé de trucs. Il y a des super-héros partout. Ça apparaît. C'est assez complet. Ce que je propose de faire pour cette fin d'émission, c'est certes de dire au revoir à Gilles Ostrovski, mais peut-être pas tout de suite. On va écouter la compilation des Arocs. Ils sortent un nouveau numéro aujourd'hui avec du Dominica. Il y a différentes choses, mais il y a Benjamin Clementine.
Il y a un clip qu'il a tourné à Marseille.
C'est peut-être très bien, mais là, je vois qu'il y a du Benjamin Clementine.
Des escaladeuses dans les calanques, paraît-il. On me l'a envoyé, je l'ai pas encore regardé. Mais c'est pas plus belle la vie, hein, c'est sûr.
Là, ce que je vois, c'est qu'il y a du Benjamin Clementine dans cette compilation, et pour l'avoir écouté, je trouve ça très, très intéressant. Donc on écoute cette grosse voix. Gilles Ostrovski a une voix aussi particulière, je crois. On écoute ça et puis ensuite on dit au revoir à Gilles et puis on terminera l'émission.
Sits in the back of this grey caravan. Tomorrow he'll probably jump in Parisian metro barriers with a bottle in his hands. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said,
Et voilà, à l'instant nous écoutions donc de Benjamin Clementine le titre London, extrait de l'album At Least For Now. C'est en couverture des Incorruptibles, c'est le numéro combien, 999, du 21 au 27 janvier. Gérald, c'est au bien. Revoir.
Oui, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine avec un invité, oui.
On ne sait pas encore.
On ne sait pas encore.
La réponse.
Suspense.
Et puis sinon,
pour le 4 février, ça devrait être prévu. Également, je dis au revoir à Gilles Ostrovski. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ce spectacle qui est encore programmé au théâtre du théâtre de la Croix-Rousse jusqu'au samedi 24 janvier. Merci.
Eh ben, au revoir.
À la semaine prochaine peut-être ou à un de ces soirs. Merci de nous avoir présenté ce spectacle.
Couvert.
Voilà, restez couverts. Au revoir Sonia, au revoir tout le monde. Restez à l'écoute également des bandes continues de Radio Canu parce que c'est très bien et vous avez raison. À la semaine prochaine et salut tout le monde.